Allez, toc toc, badaboum, c'est qui, c'est nous, c'est
Sport Épique.
Mais ouais,
bah toujours.
Ah ouais, ça fait vraiment.
Pour un dimanche.
Ça fait vraiment.
Ah, puis on a été motivé, on a eu un.
Il y a deux semaines, excellente émission au bon rang. Ouais.
On avait du
mais
bon.
Mais par contre, j'avais deux pendus à faire la petite chanson.
C'était
dur. Ouais. Là, je retrouve mes compères.
Mais...
J'ai mon Fred, j'ai mon Lionel.
Ouais. Ah, bonjour Benoît.
Et quand on est là, les gars, on aime parler de la Mayenne.
Mayenne,
ouais. De la Mayenne, ouais. Profonde, de la Mayenne. C'est quoi nos étendards, évidemment. On n'en a plus parlé année. On en a trop peu parlé, en tout cas. C'est, qu'est-ce qu'on a?
Ah, on a le volleyball,
notre spépette.
T'es à fond, là, t'es un bon joueur. Et quand on parle volleyball dans le 53, on appelle, évidemment... Un blot.
Ouais, c'est obligatoire.
C'est celui que vous voulez, il n'y a que des vedettes. Et là, on a un des monstres, c'est Louan. Salut Louan.
Salut à tous.
Ah, bonjour Louan.
Vous vous rappelez certainement, Louan nous avait fait un petit topo en fin d'année l'an passé, pendant les 3F. On reprend Louan ce début d'année parce qu'on n'a pas de nouvelles du volet. Moi, je suis allé vous voir, c'était quand? C'était il y a une semaine, il y a deux semaines, à la Salpo. C'était génial.
Génial.
Louan, raconte-nous ça là. C'est quoi ce début de saison de fou là, que vous faites là?
Du coup, le dernier match à la Salpo, c'est ça?
Oui,
ouais. Ouais, on notamment.
En général, en effet, le début d'année est quand même assez mouvementé pour l'équipe première.
Ouais.
Les nouveaux joueurs d'arrivée, et voilà, donc l'acclimatation de certains joueurs, le nouveau coach. Les relations.
Arrête-toi un peu là-dessus, ouais, Louan. Là, il y a vraiment du nouveau là cette année. Là, disons, moi, j'ai quasiment reconnu personne là quand j'y suis allé.
Bah ouais, c'est sûr, il y a vachement de changements.
Comment ça se fait à votre niveau? Donc on rappelle que vous c'est la N2, donc c'est la 4e division française. Comment ça se passe? C'est déjà des agents qui vont chercher? C'est déjà un directeur sportif qui regarde certains matchs en vidéo ou des choses comme ça pour aller recruter? Ou comment ça se passe tout ça? Toi tu connais un peu les coulisses?
Ouais, bah c'est vraiment ça dépend du joueur en fait. Vraiment chacun est différent.
D'accord.
Par exemple, la plupart des joueurs, ils n'ont pas d'agent, à part un, du coup, Renan, le Brésilien.
Ah ouais?
C'est le seul qui a un agent, ma connaissance. Je t'avoue que je ne suis pas non plus un expert.
Ouais, j'imagine. J'ai vu qu'il y avait le fiston de la d'une des légendes de la SPTT. On dit toujours que si vous jouez un peu
exactement,
au volet, vous devez passer entre les mains de Yannick. Et apparemment, donc c'est le fils de Yannick qui est de retour des États-Unis, là.
C'est ça, exactement.
Énorme.
Ouais, très très costaud. Ce match, il est fabuleux. Mais ouais, parle-nous un peu de ce début de saison, du rythme que vous avez là, et comment ça fonctionne là.
Bah avec le nouveau coach du coup, Mathias. Bah c'est un gros début de saison.
Ouais.
Pour l'instant, on est toujours dans l'objectif de finir premier et de monter.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ok.
Exactement, toujours.
Ok.
Donc pour l'instant, les objectifs sont bien remplis. On a gagné tous nos matchs sauf un où on a fait 3-2 contre Chartres. Donc au classement, on est deuxième.
Très bien.
À 19 points.
Ouais. Très bien.
Mais on est deuxième, pas derrière Chartres qui sont troisième, mais derrière Xavi qui sont premiers. Parce que Chartres ils ont perdu, mais pas contre nous. Alors que du coup, Xavi, ils ont fait que des victoires.
Ok. Et qu'est-ce que ça donne là, l'ambiance? Alors forcément, quand ça gagne, alors on sait très bien dans les équipes de Sportco, c'est sympa. Mais là, ce mélange de nouveaux, de jeunes, d'anciens et tout, la mayonnaise a pris. C'est la fête dans le vestiaire. C'est comment cette année?
C'est différent par rapport à l'année dernière. Forcément, les nouveaux joueurs pour tout recréer. Donc,
oui.
En plus,
oui.
Le fait que du coup, il y avait quand même, il y avait des étrangers l'année dernière, mais là, avec Renan, c'est encore différent. Faut s'adapter. Ça se passe plutôt très bien. L'ambiance est toujours là, c'est toujours très sympa. Moi, je surkiffe à chaque fois de venir m'entraîner. Et quand ils m'appellent, de venir jouer aussi. Parce que le match à la Salpo, c'était le seul match où, pour l'instant, j'ai joué de l'année.
Ambiance incroyable, la tribune était pleine. haine, ouais. L'ambiance était totale, c'était un super moment, et on rappelle ouais. à tout le monde, messieurs, dames, allez voir ça, même si vous n'êtes pas très volé, putain, c'est une ambiance du tonnerre, c'est vraiment à faire.
Ouais, c'est vrai que c'était avec l'équipe Champy, donc Rennes, une belle victoire, 3-7-1-1, ça veut dire c'est le score parfait, quoi. Super sympa, on a vu du spectacle, ouais. Même un peu de suspense sur la fin, c'était vraiment un très bon moment pour tous les spectateurs, j'espère que sur le terrain, vous avez kiffé aussi pareil.
Ah bah oui, complètement, surtout, bah, bon, revenir avec l'équipe première, rejouer à Salpo, c'était un pur plaisir, et surtout bah, le résultat est là, donc bah, encore plus quoi.
Et le résultat est là, et les sourires, et en fin de match, vous êtes tous dispo pour venir causer avec nous, pour passer un bon moment avec tout le monde, c'est vraiment, c'est à faire, c'est vraiment à faire, dans le 53, c'est un truc à faire, allez voir.
Et toi Louan, là, parce qu'on a une très très belle salle quand même pour du VB de N2 à Laval, est-ce que tu as rencontré des salles à peu près de même calibre, avec la même ambiance depuis le début de la saison?
Bah, en N2, moi je suis jamais à Pise, comme je te dis, c'est pas le match que je faisais. Donc je vais te parler par rapport à l'année dernière.
Ouais.
Ça dépend vraiment des équipes. Souvent en N2, on est quand même une des meilleures salles, surtout en termes d'ambiance, j'ai pas vu meilleur.
Mayenne, Laval,
putain, c'est un truc de fou, hein. T'as 800, ouais, t'as 800, 900 là, personnes, c'est incroyable, ouais, c'est génial.
Exactement, donc c'est, ouais, bon, en termes d'ambiance et même capacité de personnes, nombre de spectateurs, je pense qu'on est dans le meilleur ou l'un des meilleurs.
Ouais.
En tout cas, moi, j'ai jamais eu mieux actuellement quand on a joué contre l'extérieur.
Ouais, mais évidemment, là, ça faut le dire au niveau national, ça c'est nous les meilleurs. Il y a que Fred qui vient pas. Donc Fred, tu t'es quand même, t'es quand même l'invité principal, t'es un bon volleyeur.
Mais j'attends la N1.
T'attends la N1, t'as bien raison.
Faut que ce soit leur objectif, ça peut être la surmotivation, ça.
Et alors, toi, Lionel, t'étais avec moi, t'as vu cette entrée de Louan. Louan, tu nous dis que tu joues moins, c'est en fonction de tes études, forcément, t'es au Mans, tu peux moins t'entraîner, donc c'est normal, t'as rétrogradé un peu dans l'équipe 2. Mais là, on te demande, devant 800, 900 personnes, de rentrer à un moment un peu chaud du match, le mec, il rentre au service. Et là, t'as la salle qui applaudit, qui machin, bah, le Louan. Louan, toi, tu dois avoir 19 ans, 18, 19 ans. Bah, le mec, il se démonte pas et il va vous faire une série de services de fou.
Et tu fais la balle de match, hein, Louan. Hein.
Exactement.
Ouais, quel bon moment.
Et sans déconner, t'as pas la petite goutte de sueur là qui sur le côté là. T'étais comment dans la tronche toi?
Si, complètement.
Ah, tu l'as?
Juste avant cette série, j'avais fait un super service au milieu du filet. Donc,
comme beaucoup d'autres. Mais toi, Enfin, je sais pas s'il y a des stats ou des choses comme ça, mais je pense que t'es quand même un peu connu dans le milieu pour ton service assez extraordinaire, quoi. Tu fais une vraie diff, toi.
Je connais pas de stats, mais
ça fait
plaisir d'entendre ça. Surtout si ce qu'on ressent par rapport aux spectateurs, ça fait plaisir.
Ouais, et puis c'est vrai que quand on n'a pas l'impression de te gêner, quand on te met cette ambiance au service, quand tu as le clap comme un athlète qui va sauter, on n'a pas forcément l'impression de te gêner. T'es vraiment dans ton truc, t'as l'air hermétique à la pression. Alors tu nous dis que forcément ça tourne un peu aussi toi dans ton cerveau, mais nous on a l'air de voir un monstre froid là qui va aller réussir systématiquement son truc. Et bravo à toi, hein, bravo à toi.
Merci, ça fait beaucoup. Ça veut dire que j'arrive bien à me concentrer sur ma taille. C'est un objectif. Hein.
Super. Et
c'est
en
vrai.
Équipe.
Ouais, moi qui ne suis pas un spécialiste, c'est vrai qu'il y a une rotation très importante hein, pendant le match. Et là, je me pose toujours pourquoi le coach il fait ces changements, parce que ça a l'air de bien tourner. Puis ça tourne, enfin, je veux dire, au niveau du sport, ça marche bien, mais ça tourne quand même, ça tourne tout le temps. Pourtant, ce n'est pas l'épuisement, c'est de la stratégie, c'est les postes qui vont faire
c'est la surprise aussi.
C'est comment le coach fonctionne. Il y a des coachs qui font très peu tourner, d'autres qui font beaucoup tourner. Mathias, dès qu'il voit qu'un truc ne fonctionne pas, ou va fonctionner un peu plus tard, par exemple, il va tout de suite changer, comme pour faire sortir le joueur, pour se faire rafraîchir, un peu retomber la pression, et après pour pouvoir rentrer plus tard, quoi.
Ouais.
Souvent c'est ça, et ça a très bien fonctionné pour ce match-là.
Moi je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord avec Lionel, parce que moi je suis je vous vois là les remplaçants, parfois vous vous échauffez mais tout un match et ça rentre pas, alors que le score est acquis.
Tu parles des remplaçants, mais les titus ils tournent beaucoup, les titulaires. ça
oui,
tourne.
Mais ça, c'est des histoires de poste.
Oui,
peux
un
pas
peu.
Faire,
voilà,
tu peux pas
voilà.
Faire monter
voilà.
Un libéro en,
voilà,
en ligne avant. Et
c'est sûrement
suite.
Ça.
Donc
c'est
là,
sûrement
c'est
ça.
Pareil, un central, tu peux pas le faire descendre et ainsi de suite. Enfin, si tu peux, mais ça sert à rien. Donc oui, eux, ils bougent. Mais autrement, moi, je trouve qu'en termes de remplaçants, alors c'est vrai que ce coach-là est un petit peu différent. Mais autrement, tu voyais le match, il était plié. Bah putain, mais fais rentrer tes mecs qui jouent très peu.
Ouais, mais même à très très haut niveau, c'est comme ça. C'est vrai que ça peut être un enfer dans la tête. C'est pour ça qu'il faut être balèze pour te dire, bah moi, je vais rentrer que pour servir et je vais les passer. Mais c'est le fois, c'est la frustration. Si t'en mets effectivement dans le baduf, bah tu ressors directement. Tu te dis, bon, bah là, j'ai eu mes 2 secondes et demie de jeu. Ouais, c'est très très dur ça.
Ouais, bravo Louan. Et donc, tu nous dis que t'es un peu en équipe 2. Ça se passe bien aussi, l'équipe 2 ?
Oui, l'équipe 2, ça se passe très bien aussi. Là, on est 5e du championnat avec 10 points. Donc, on est pile au milieu.
Parfait.
Voilà, donc, l'objectif, c'est le maintien. Donc, bah, c'est, je crois, quasiment assuré. Il faut peut-être qu'on gagne encore quelques matchs. Et voilà.
Donc, vous êtes quelques-uns de l'équipe 2 à monter en équipe 1 régulièrement, enfin, régulièrement de temps en temps. Je pense à Gwenval aussi, qui est plutôt en. Voilà, qui monte, qui descend. Mais ça, c'est vraiment. Voilà, un coach. Là, on sent qu'il est indispensable pour gérer ça. C'est vraiment une pièce maîtresse. Hein.
Complètement. Bah là, c'était vraiment exceptionnel le cas avec Gwenval, parce que du coup, il y avait dans l'équipe première, du coup, à son poste, du central, il y avait 2 absents. Et donc, ce qui fait qu'il leur fallait absolument un autre, parce que sur le terrain, il y en a 2. Donc, il y en avait 1, mais il en manque un 2e. Donc, ils ont appelé Gwenval.
Ouais.
Mais Gwenval, il ne s'y attendait pas du tout.
Ouais, mais pourtant, quel match.
Ils ne jamais avec la N2.
Vous êtes appelé à 11h du soir la veille, vous jouez devant 800 personnes, faut assumer. Et le mec est très bon. Et
très
bravo,
bon.
Les gars, super, on adore le volet. Allez voir ça à la salle Pau.
Le prochain, c'est en janvier, c'est ça, Louan?
Je t'avoue, je suis même pas exact, je sais plus.
Si, ils l'ont rappelé, c'est mi-janvier, réservé. Ouais, parce que la com, elle est pas énorme, je trouve. La com du club est pas énorme, et pourtant, c'est la salle
Ils ont
comble.
Ils ont même pas besoin. Ils ont même pas besoin.
Faut croire qu'ils ont pas besoin.
Évidemment, ils ont qu'à faire parler Louan, ça fait venir tout le monde. Bon, bravo Louan, t'es super, on te rappellera durant l'année. On adore le volet, on t'adore, c'est génial, et on te souhaite le meilleur pour la suite. Ciao mon ami.
Bonne journée Louan.
Merci beaucoup.
Salut.
À la prochaine.
À la prochaine avec plaisir.
Salut.
On continue les gars avec les sports qui en hiver sont beaucoup plus durs à pratiquer, et il y en a un, moi je trouve particulièrement... Ah, j'ai oublié d'éteindre, excusez-moi.
Ça,
voilà.
C'est la technique, ça arrive.
Il y en a un particulièrement, messieurs, lequel vous aimeriez vraiment pas faire, vous, en hiver, là, où vous rendez tétanisé.
Mais qui se fait quand même.
Qui se fait beaucoup.
Alors, j'imagine le surf, par exemple.
Alors, non, c'est beaucoup plus commun. Hein, c'est un peu
c'est football ou rugby, quoi.
Eh ben ouais, c'est football ou rugby. Bah, je peux vous dire, moi, j'ai fait les deux. Le rugby, c'est pire. Hein.
Et pourtant, la saison d'hiver est énorme au rugby.
Elle est énorme, les mecs s'arrêtent pas. Et quand tu vois qu'ils jouent à Grenoble. Dans les montagnes là-bas, les machins.
Oh ah, et puis tu te dis, déjà les impacts quand il fait bon, que t'es chaud, c'est bien. Alors là, et puis là, quand t'es dans des divisions, tu sais, obscur, t'y vas, tout doit être dégueulasse.
Tu le sais. Et tu sais, tu vas à l'entraînement, il fait nuit, fait froid, t'as fini ta journée de boulot, tu vas manger de la boue pendant des plombes. Ouais, faut être sacrément.
Et toi qui connais un peu mieux le rugby, est-ce qu'il, comme au foot, on peut annuler une journée ou un match pour un terrain praticable?
Quand le sol est gelé. Parce que tu vois, autant au foot, on va souvent faire quand le terrain est
trop gras.
Très gras. Ouais.
Ça compte pas en rugby. C'est quand le terrain est gelé, c'est dangereux.
Ah bah carrément.
Dois appréhender. Moi, je veux dire, déjà aller à l'entraînement, rien que ça, je veux dire,
non, j'y vais pas. Il faut sortir du vestiaire maintenant, monsieur. J'y vais pas. Et quand on parle rugby, évidemment, on a notre consultant, on a Jo.
Jo est là.
Il est là, il est avec nous,
la grande voix du rugby.
J'aime bien cet accueil. Appelez-moi plus souvent, je vous dis, les gars.
Normalement, t'es torse nu, là.
Bah, à Bordeaux, il fait encore comme
ça.
Il
est torse nu toute l'année. Donc.
Bon, alors, dis-nous tout, là. On est en train de parler de notre beau sport de l'Ovalie, là. Mon Jo, on se dit qu'en hiver, rappelle-toi les entraînements, nous, on joue à Paris tous les deux. Il fait froid, il pleut, faut aller se mettre la gueule dans la boue, c'est dur quand même, c'est dur, faut être courageux.
Bah, faut être courageux, mais bon, t'as quand même une grosse compensation dans le rugby. Hein. on va pas se mentir, c'est quand même les douches et la troisième mi-temps. Donc,
faut y penser pendant 40 minutes.
Voilà, c'est une vraie motivation, hein. C'est une grosse source de motivation.
Ça va être énorme dans les vestiaires. Mais il est où le... Mais il est déjà sous la douche. On s'est pas encore entraîné.
Alors t'as de la chance d'être bordelais, Joe, maintenant. Et t'as peut-être l'une des futures grandes pépites mondiales dans ton stade, un week-end sur deux là. On parle évidemment de Biel Barré. Tu le vois jouer, toi. Il est si rapide que ça. Il est comment, ce joueur là?
Ah bah c'est un truc de fou. C'est...
Ah ouais.
Après bon, il y a le côté rapide du gars, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte du nombre de courses qu'il fait dans un match.
Ah
en fait,
oui.
Ce gars-là.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais.
Et ça, c'est la répétition des efforts. Et c'est vrai que quand tu le vois en réel, que bon si t'es du bon côté du stade et que sur toute ta première mi-temps il est de ton côté, mais le mec fait un nombre de courses mais incalculable. Ouais. C'est surtout ça qui est incroyable.
Là, Biel Barré.
Ah ouais. Il y a au-delà de la vitesse, de l'explosivité, c'est que attention, il doit avoir un cardio mais de fou.
C'est
quoi,
ça, ouais.
Pour enchaîner des courses comme ça, quoi.
De
ça, c'est impressionnant. Hein.
On vous parle de lui parce que la tournée d'automne se termine, d'ailleurs on a fini avec l'Australie. Quel est le bilan, toi, mon Jo? On l'a entendu à la télé. Est-ce que toi t'as un bilan différent? Toi t'es plutôt content, plutôt déçu, ou rien du tout? Ça t'évoque rien là?
T'es plutôt mi-fig mi-raisin, forcément, parce que tu débutes cette tournée d'automne avec quand même des certitudes. Tu sors du tournoi de destination en étant vainqueur.
Ah, toi, t'as des certitudes en démarrant, là?
Tu loupes le grand chelem de pas grand-chose. Et puis, t'as le gros match contre l'Afrique du Sud que t'as pas joué depuis 2 ans, depuis ce fameux quart de finale de Coupe du Monde.
Ouais.
Et puis, tu prends la marée, quoi.
Tu prends la marée, on en avait parlé il y a 15 jours, on était d'accord pour dire qu'on avait pris vraiment, comme tu dis, la marée. Il y avait Fred plutôt mitigé, on avait sorti une première,
voilà.
Moi j'étais pas
une
d'accord,
première...
mais messieurs, ça, on en a déjà parlé, c'est sur l'ensemble du tournoi, enfin de cette tournée en tout cas, est-ce qu'elle est positive pour les 6 nations qui arrivent, pour la Coupe du Monde, bon c'est pas tout de suite, mais est-ce qu'elle elle est à prendre de manière positive ou plutôt de manière inquiétante, Jo?
Non, je dirais quand même positif, parce que tu gagnes quand même, tu finis quand même par gagner tes 2 derniers matchs. Même si l'Australie, c'est plus l'Australie qu'on a connue non plus, c'est pas flamboyant comme ça a été.
Ouais.
Mais tu gagnes quand même. Bon, tu gagnes quand même ton match. Tu le finis vainqueur. Tu gagnes contre les Fidji, contre qui maintenant c'est plus du tout facile de gagner.
Ouais,
pas vrai.
C'est clair.
Après c'est sûr, les Fidji, tu les joues 60 minutes, t'es pas sûr du tout de gagner le match. Mais bon, on a de la chance au rugby, tu joues 80 minutes.
Ouais.
Donc t'arrives quand même à gagner ces 2 équipes. Et puis donc il y a quand même du positif. On va tous se raccrocher évidemment avec notre petit côté franchouillard à Dupont, se dire que espérer qu'il revienne à son meilleur niveau, qui nous fera du bien forcément. Dans l'animation offensive, c'est quand même un joueur qui pèse énormément sur le jeu, hein, sur les défenses adverses que quand t'as les mecs qui sont à côté de lui. Hein. Donc qui va peut-être revenir à son meilleur niveau aussi, parce que je pense que pour moi c'est pas encore le meilleur niveau, le meilleur Ntamak qu'on a vu. Donc si il y a des signes encourageants, si tous les feux sont ouverts, tu peux aborder le tournoi en étant quand même on n'est pas ridicule, quoi.
Parce que
forcément t'es un peu de confiance.
On se fait quand même plier en mêlée. Alors que un pack, c'est un pack, quoi. Donc il va pas s'améliorer le truc.
Si, il y avait des absents, donc
donc on va jouer sur les absents, mais les absents il y en aura toujours. Donc moi je vous dis, les gars, autant la précédente Coupe du Monde je l'abordais en me disant on peut y aller, là je me dis on est vraiment un cran en dessous, on est 4 ou on est 5, quoi. Voire 6. Ouais, Lionel.
Et Jo, sur cette tournée, tu as découvert des petites pépites là, des petits jeunes, on parle de, il y a 2-3 noms qui circulent, tu en as vu, toi?
Le problème, c'est que sur ce genre de match, il n'a pas fait tourner tant que ça, finalement. Hein. Tu t'aperçois que t'as le petit Montagne, là, qui est le pilier droit, je crois, qui est un petit nouveau, qui n'est pas encore au niveau du Antonio, quoi, par exemple.
Ouais.
Forcément, on ne va pas se mentir. Après, des pépites dans le rugby français, je veux dire, si t'en avais, on le saurait déjà, quoi.
Bah si, il y en a un qui a percé, quand même.
Du top 14. À part peut-être un Atisogbe qui, je pense, peut-être un jour, va peut-être prendre la place de Penaud, hein, tout simplement.
Ouais.
Et voilà, mais des pépites, non,
ouais,
tu peux pas
grand-chose de ton côté.
Une grosse découverte sur le tournoi, quoi.
Pas grand-chose. Fred, qu'est-ce que t'as vu, toi ? T'as vu du joueur ?
Non, mais je pense que c'est le propre de ces tournées d'automne, quoi. Ça permet de faire une revue d'effectifs pour préparer justement, faire un instantané pour préparer le prochain tournoi. Je pense qu'il y en avait besoin pour l'équipe de France. Et puis effectivement, on a vu des joueurs qui n'étaient pas tout à fait leur niveau. Je pense qu'Entama, qu'il a besoin justement que Dupont revienne. On sent bien que là, il est un peu orphelin et il se cherche. Bon, après, il revient aussi. Lui, il a eu des périodes difficiles, donc il faut se reconstruire. Sur ça, moi, je suis pas super inquiet parce que on est qu'à mi-chemin pour la prochaine Coupe du Monde.
Ouais, c'est sûr.
Et encore une fois, nous, on débute cette tournée. Ils ont une semaine dans les Cannes ensemble, c'est tout. Alors que les autres, ils sortent d'une grosse période où ils sont ensemble. Donc, je pense que les Sudaf, bah, effectivement, eux, ils ont marqué leur territoire. Mais moi, je suis assez partisan du discours dire que les Sudaf, ils sont peut-être prêts trop tôt.
Ah oui,
et
ouais.
De la même façon, les Australiens, je pense que les Australiens, ils sont en phase de réglage, ils se préparent, ils essaient de modifier leur jeu, ils sont très très joueurs, mais ils ne seront pas aussi joueurs dans 2 ans. Donc là, c'est une phase de transition, ça permet de faire des revues d'effectifs. Effectivement, on a bien senti que nous, au niveau de la mêlée, on avait un souci. On a un souci parce qu'effectivement, ce qui nous manque, c'est Antonio. Mais Antonio, il est âgé quand même. Hein. Il va signer aux finances l'année prochaine.
Encore un. Donc,
tu sens que là, il y a un travail à faire. Après, sur les autres, bon, on a des certitudes quand même. On parlait de Bielmiaret, on parle de Penaud, qui sont encore là. Ouais. Ramos, il a fait le job.
Ramos, toujours.
Ouais, c'est ça. Donc, on a. Voilà, puis on a vu qu'Entama, qu'il était en dessous. Mais Entama, pour une fois, il est sorti. Il n'est pas blessé. Il ne s'est pas fait péter quoi que ce soit. Donc, on va pouvoir le remettre au chaud. Dupont va revenir. Bon, bah. Non, c'est. Je pense c'est bien.
Tu vas aux 6 nations serein, ok.
Ah ouais. Moi, c'est juste ces 6 nations, j'ai hâte de voir un peu l'Angleterre, parce que je trouve que l'Angleterre est montée un peu
c'est
en.
Fort. Tu m'étonnes.
Eux, ils étaient au fond de la mine il y a quelques temps, là, ils commencent à revenir. Faut se méfier. Je me demande aussi les Irlandais, ce que ça va donner, parce que là, ils ont un coup de mou aussi, les Irlandais.
Pas ça non plus. Hein.
Donc, de toute façon, je crois que c'est eux qu'on joue en premier aux 6 nations.
Ah ouais, direct.
Donc ça va être intéressant, mais c'est ouvert, mais je suis ni inquiet, ni c'est normal. Enfin, c'est vraiment, on est en plein milieu entre deux Coupes du Monde, donc c'est un petit peu normal, quoi.
Ça sert à ça, la tournée d'automne.
Ouais,
la tournée d'automne, toi, Jo, on t'appelle, tu vas jouer ou tu te dis non, il fait trop froid et machin.
Je me dis surtout que maintenant, j'ai envie de rentrer chez moi vivant, quoi.
Tu m'étonnes.
Au-delà de ça, quoi.
Tu vas au stade un peu là-bas, là ?
Allô ?
Tu vas au stade un peu ?
Non.
Tu vas pas
honnêtement,
trop.
Cette année, non.
Tu vas
année,
pas trop. C'est dommage, Bordeaux.
Cette année, mais ça commence à être compliqué chez nous, là. C'est pété d'abonnés, donc...
Pour
avoir des places quand t'es pas abonné, ça commence à... Bah, tant mieux, hein, c'est très bien pour le club, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des places comme ça pour un petit match. Ça commence à être difficile.
Bordeaux est devenu un vrai
c'est
club.
C'est la rançon du succès.
Ouais, Lionel.
Encore une petite question, Jo. Est-ce que tu, avec ton expérience, Jo, est-ce que tu trouves que le jeu est devenu plus violent, plus dangereux, ou plutôt l'arbitrage est devenu plus tatillon ?
Plus violent, non. Très honnêtement, je pense pas. Et plus c'est physique, parce que forcément, les mecs sont plus préparés aussi. Hein. C'est des athlètes aujourd'hui, ils ont une grosse préparation physique, mais plus violent, non, c'est sûr que non. Après, les arbitres, ils sont peut-être aussi un peu plus prévenant par rapport au physique des joueurs. Quoi.
Avec la vidéo.
Il y a des cartons rouges qui tombent beaucoup plus facilement.
Ah ouais.
Et ça, c'est pas un mal. Hein. Bien au contraire. Hein. On protège l'intégrité des joueurs. Donc non, plus physique, non, je pense pas. Plus violent, non. Ça, c'est sûr que non. Et plus physique, bah oui, après, t'as des mecs, c'est des athlètes. Quoi. Avant, il y a peut-être 30 ans, un première ligne, bon, voilà, c'était quand même un mec qui ressemblait un peu à un gros cochon.
Ouais.
Maintenant, les mecs, ils font tous 1m85, 1m80, même les premières lignes. Hein.
Bah, je crois que tu jouais première ligne, toi, il y a 30 ans.
C'est vrai, hein.
Fred.
Ouais, mais c'est vrai que ce qui était assez rigolo là, dans la tournée, c'est que d'un côté, les caractéristiques des équipes restent. Les Sudaf, c'est quand même très, très. Ça peut être bourrin quand même.
Ah ouais.
Et clairement, nous, on débute, on fait un. bon début de match. Ramos notamment fait un bon début de match. Bon bah le mec il s'est fait il y avait un contrat, il s'est fait défoncer. Moi je pensais qu'il est resté paraplégique ou tétraplégique. Et bon, si c'était nous, je pense que de toute façon tu décèdes sur le coup. Bon, le mec il reste debout et je me dis c'est fabuleux comme quoi la préparation, hein, parce que ouais, quand tu vois l'impact et puis quand tu vois le super intellectuel qui a fait ça en face, le mec il était là. De toute façon le mec c'est un tronc d'arbre, il te le chope
magique.
Tu vois la tête qui part dans tous les sens,
dans
et
tous
tu
les sens.
Oh là là, et tu te dis déjà ça serait nous, ça ferait crac crac. Bon bah le mec il, tout est pété. Donc, c'est impressionnant quand même,
c'est impressionnant. Bravo à vous, bravo Joe, t'es un super consultant, tu sais. Ça, c'est moi qui
te... Si je peux vous faire plaisir, les gars, je cite vraiment avec beaucoup d'envie.
Tu nous fais toujours plaisir. Ça, tu le sais bien. Allez, mon ami, merci. Et
à bientôt.
Et à très bientôt pour les 6 nations, alors.
Ah oui, exactement. Allez, bisous tout le monde.
Allez, vive Bordeaux.
Salut.
Showbiz. On en a de la chance d'avoir tous ces spécialistes-là qui nous appellent, qui nous agressent, qui veulent participer à Sport Hippique dans le 53, évidemment. Et on reste dans le 53.
Oui,
avec, avec une belle victoire, mon Lionel, du Stade Lavallois.
Une victoire super importante.
Parce que là, on jouait le dernier, c'est ça,
hein. Ouais, c'est
oui. Eux, par contre, ils vont très, très, très mal.
C'était le match de la peur, ouais.
Mais un match remis, là, comme on sait, et bah, qui se termine plutôt bien pour nous, parce qu'il n'y avait pas le choix. La défaite contre 3 à la maison, bon, c'était là, il fallait vraiment il fallait une bonne nouvelle,
mais là il y avait l'histoire du tapis vert là. On pouvait perdre très lourd.
Ouais, et puis on sait que c'est jamais simple d'aller jouer en Corse.
Ah putain, tu m'étonnes.
Surtout quand là en plus ils sont derniers, c'est eux, c'était un match super important pour leur survie. Bon, il y avait une histoire du tapis vert.
Ouais.
Donc, chapeau.
C'est quoi l'ambiance là-bas, là, en Corse ? Parce qu'on sait que c'est chaud quand même. Alors, est-ce que les mecs sont survoltés, là, les supporters, ou non ? C'était plutôt calme, je sais pas.
Je sais que à la fin du match, le quart du Stade Lavallois, il y a eu quelques fumigènes, il y a eu des départs de feu juste à côté du quart et tout. Ouais.
Ça doit être chaud d'aller jouer. Et là, ils sont dans la mine, Bastia, ouais.
Ah ouais, ils sont derniers, ils ont 7 points et je crois qu'ils ont déjà 7 ou 8 points de retard par rapport à l'avant-dernier. Donc, c'est...
Et nous, on revient 14e. On a un match, c'est super, on est plein à être à égalité. Hein.
Oui, c'est ça, mais
c'est pas grave, au moral, tu regardes le classement, ça fait un bien fou.
Ouais, puis c'était l'objectif, là, c'était le match piège, il fallait aller le gagner. Donc, chapeau aux joueurs, chapeau au staff, aux joueurs et tout, parce que là, c'était victoire impérative, ça a été fait, bien fait. Donc,
victoire impérative, mais on peut redescendre aussi vite s'il y a deux défaites derrière.
Mais s'il y a deux victoires derrière, tu peux quasiment te retrouver 6ème ou 7ème.
C'est la Ligue 2.
La Ligue 2, c'est une folie.
La Ligue 2, mais c'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un qui touche un peu au Stade Lavallois, qui passe à Sport Épique, on voit que le club rebondit tout de suite.
Pour nos supporters, il faudrait quand même que notre équipe gagne à domicile.
À la maison,
Là, c'est bien, c'était indispensable de gagner à Bastia, mais on a vraiment le plaisir, ce serait de les voir gagner à la maison.
Faire la fête tous ensemble.
Même pour les joueurs, ce sera un déclic. Parce que je pense que plus le calendrier avance, quand t'as pas encore gagné chez toi, l'attente est pesante, quoi.
Ouais. Après, on en parlait il y a 15 jours. Qu'est-ce que vous préférez jouer, le ventre mou toute l'année ou une grosse montée ou une grosse descente? Bah, c'est vrai, il y a eu plusieurs fois, on a vibré quand même avec le Stade Lavallois, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, quand on était dans la merde aussi, bah, le fait de se sauver sur les derniers moments, des choses comme ça, c'est des moments magiques aussi.
Si
on peut les éviter,
Si tu veux bosser dans la sérénité, ça peut être bien d'enchaîner victoire.
Mais le palpitant, il a besoin de ça aussi, parfois. Continuez à aller au stade. On vous encourage tout le temps à aller voir le volet, bien sûr, aller voir le stade. Ouais, faut se bouger. On a la chance en Mayenne
d'avoir
plein de belles têtes d'affiches.
Tu as sûrement prévu de parler du futsal.
Qu'est-ce qu'on a encore, Lionel ?
Le futsal, c'est... Là, on est carrément dans la Champions League. Avec une huitième qui est en cours, c'est quand même génial pour Laval.
Ouais, t'as pris tes places, mon Lionel ?
Oui, nous avons pris les places.
Nous avons pris
nos
places.
Pour demain.
Ah, c'est demain déjà ?
C'est demain.
C'est demain.
Ouais. Ah, ça va être une ambiance de feu. Alors, évidemment, un petit peu entaché par le fait qu'ils ont fait un très beau match.
Ils ont bien assuré
l'aller au Danemark, là, avec une belle victoire qui s'est dessinée très facilement sur la première mi-temps. On se demandait ce que faisaient les Danois. On aurait dit, vraiment, il y a 2-3 divisions d'écart.
Ouais.
Moins rigolé sur la deuxième mi-temps, avec un Marquet impérial. Non mais c'est fou quand même. Là, on parle souvent des joueurs décisifs, mais pendant, c'est un joueur pendant une mi-temps, il a rien fait.
Ouais.
Et puis il a été très important pendant la deuxième sur des arrêts fantastiques avec cette grande tige qui descend à une vitesse incroyable au sol. Enfin bref, c'était un petit peu tendu, mais bon, il y avait de la marche quand même. Et donc ça fait une belle victoire. On va pouvoir les fêter parce qu'il y a, peu de chance qu'il y ait beaucoup de suspense quand même demain. Ah. Mais par contre, ça va être une belle fête. Ouais,
ouais, ça va être une belle fête. Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est top d'y aller. C'est top. Bon, grand moment encore. On passe la coupure pub, messieurs. On revient avec quoi ? Des questionnements. Je vous donnerai plein de petites questions sur ce que vous préférez, comme d'habitude. Vous allez être fort à propos, je le sais, messieurs.
On a hâte.
On a hâte. Vivement la fin de la musique. Allez, à tout de suite, messieurs dames. You broke my wings, I was about to fly. And I crashed suicidally that I cried. You caught my feet on faith and survivingly I could die. You broke my wings, I was about to fly. C'est reparti, on est avec l'équipe de Sport Épique.
Ouais.
Non, c'est pas à ce moment-là qu'on regueule. Les
gars. Ah bon ? Ah, mais nous on aime bien, on aime bien.
C'est l'heure d'aborder notre vous préférez. Donc, qu'est-ce que vous préférez, monsieur ? Là, vous êtes deux. Oh, j'ai le droit de jouer aussi. J'ai le droit de préférer
ton père ou ta mère. Non, c'est pas ça.
Ton fils ou ta fille.
On tape tous les sports, évidemment. Donc, vous préférez courir un marathon 2,45, qui est un gros temps, hein, sans être une star, du coup, parce que 2,45, vous n'êtes pas une vedette, mais vous êtes quand même dans les très très bons coureurs, ou avec tout l'entraînement qui va avec, ou courir en 3h30, 3h45, et être plus pépère dans la masse. Quoi.
Ah, moi je préfère courir en 2h45. Quoi.
Moi je préfère courir en 3h pépère pour faire autre chose.
Alors c'est-à-dire
bah oui, parce que si tu as un super temps en marathon, c'est que tu passes beaucoup d'heures sur l'entraînement
d'heures.
Une bonne partie de la semaine c'est de préparer pour ça. Et moi j'ai envie de faire autre chose.
Et sachant qu'en 2,45 t'es un monstre dans les connaisseurs de marathon, mais t'es absolument personne sur la scène internationale, évidemment, sur la scène nationale non plus.
Ah, bien sûr.
Et,
ouais.
Donc tu n'existes pas ni dans les journaux, la presse, financièrement, t'existes nulle part.
Mais tu
t'enquilles des séances de fou.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Ah ouais.
Ah si, Fred, ah, non, tu déconnes.
Non, parce qu'à 2h45, je suis persuadé que t'as des gars qui sont, alors bien évidemment, qui sont à 5 sorties par semaine.
Bah 5 sorties, c'est beaucoup.
T'en veux combien, rigolo, ouais. T'en veux combien des sorties? Enfin, c'est pas beaucoup pour toi, 5?
Ah bah si, mais ça reste gérable.
Oui, c'est gérable, mais c'est autre chose.
Le très haut niveau, ils sont à 9 sorties, ils sont etc. Ah ouais. C'est le doux. Ah bah oui. Et quand j'ai le très haut niveau, c'est le meilleur départemental.
C'est donc de amateur.
Oui.
Qui en sort combien, tu dis, toi, de séances?
Ah bah ils sont à 7 ou 9 séances par semaine.
7 ou 9 séances, t'imagines. Et tu n'es personne sur la scène.
Bah t'es peut-être dans les 30 meilleurs français, quoi. Ouais, t'es pas greffier, hein.
Ouais, t'es pas greffier, loin de là.
Greffier. C'est greffier non plus. Mais...
bah moi je suis un peu comme toi, Lionel, parce que ces séances d'entraînement de fou furieux, je les ai bouffées. Et pour faire des temps très honorables, mais qui finalement rentrent dans l'histoire de personne.
Et puis honnêtement, faire un marathon en moins de 4 heures, c'est déjà faire un marathon, et c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal aussi, ouais. C'est vrai.
Ouais, mais encore une fois, l'exemple du marathon est un bon exemple, c'est que si t'as des prédispositions et que tu veux vraiment te dire, tiens, je vais aller taper 2h45, bah tu vas consacrer 6-9 mois, effectivement. Ouais. Je suis d'accord, hein.
Ouais.
Mais derrière, ça veut dire qu'une fois que tu l'as fait, bah après tu peux revenir à ta vie normale. C'est pas un sacerdoce pendant 35 ans, quoi.
Ah ouais, mais tu sais, tu le fais peut-être pas à ton premier marathon, parce que quand on te parle d'expérience, c'est vrai qu'il faut s'y connaître un petit peu pour les ravitaillements, les machins, les séances d'entraînement et ainsi de suite. Donc ça veut dire que tu vas devoir consacrer peut-être 2 ou 3 ans pour arriver à cette perf là. Et
t'as une bonne connaissance, c'est une voisine qui a fait un super temps il y a pas longtemps. Ouais, alors c'est pas 2h45, mais qui est en 2h50 et quelques. Et tu la vois tous les jours. Je pense qu'elle a une vie à côté. Tout se passe bien.
Ouais.
Et pourtant, elle fait un temps assez phénoménal. Donc ça veut dire que je suppose hygiène de vie, enfin etc. Ouais. etc. Mais ça reste gérable, tout en ayant une vraie vie sociale, etc. Quoi. Donc
c'est vrai aussi. Alors messieurs, vous préférez avoir on change complètement de sujet. Hein, vous préférez avoir le bâton de Bourbotte 10 matchs ou faire un parcours en Coupe de France?
Tu peux répéter le début?
Le bâton de Bourbotte.
Ah bah alors là je suis désolé, j'ai pas la ref.
Ah, je viens d'apprendre le truc, c'est génial. C'est un joueur qui devait jouer dans les années 20-30 et qui avait lancé cette idée d'avoir l'équipe qui gagne en Ligue 1 a le bâton de Bourbotte, et tant qu'elle n'est pas battue, le bâton de Bourbotte ne change pas de main, ne change pas d'équipe.
Qui reste invaincu, au fait.
Donc en ce moment, c'est Brest qui l'a.
Ah oui?
En ce moment, c'est Brest qui l'a. Et donc, tant que personne ne les bat, ils gardent le bâton. Donc vous préférez garder un bâton de Bourbotte 10 matchs ou faire un parcours de Coupe de France?
Coupe de France.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Ça, c'est moins éphémère.
Ouais, puis ça parle plus aux gens, ça reste.
Ouais.
Ça va rester.
Sachant qu'attention, un parcours, je vous dis pas d'aller en finale ou gagner
non, mais une belle aventure, quoi.
Tu vois, une belle aventure.
Parce que
ça
toi,
va rester.
Ton bâton de Bourbotte,
il y a
que Bourbotte qui est au courant.
Ouais,
donc,
je te jure, ça prend de l'ampleur.
Ah, mais peut-être.
Et je pense que c'est un moyen de vraiment rigoler dans un club et de créer une émulation.
Ouais, mais ça restera pour un petit noyau, alors que le parcours, ça va parler à toute la ville ou toute la commune. Enfin, ou tout le département, ou toute la région.
Ouais.
Donc non, moi je prends la coupe.
Moi je prends peut-être le bâton, parce que je te dis, cette émulation dans le vestiaire à te dire, allez les gars, faut à tout prix qu'on se batte pour le bâton. Avant on se battait pour gagner le match, mais évidemment c'est un peu le jeu. Là tu te bats en plus avec ça, qui est drôle, qui est pas prestigieux encore, mais qui est vraiment...
Voilà, faut attendre le prestige alors, peut-être.
Le prestige. Messieurs, vous préférez être abonné au Stade Lavallois? D'accord, donc vous allez voir tous les matchs ou aller voir les 6 nations,
voir tous les matchs français
à domicile,
tous les matchs français. Ah la vache.
Qu'est-ce que vous prenez là-dedans?
Bonne question, parce que t'es extérieur, tu peux te dire, tiens, c'est plus prestigieux, etc. Si t'es un vrai, tu prends l'abonnement du Stade Lavallois, quoi.
Ouais, bah quand même, on prend l'abonnement.
Alors c'est vrai que là, derrière tout ça, il y a aussi les transports et tout ça qu'il faut organiser, la disponibilité. Il y a la faisabilité, quoi. Mais bon, là, tu parles comme ça dans l'absolu, quoi. Hein.
Ouais, dans l'absolu.
Oh là là.
Parce que, attention, les 6 nations, c'est un vrai moment du foot international. Enfin, du rugby international. Et t'es dans l'ambiance.
Bah moi je vais prendre le Stade parce que le 6 Nations, moi je suis ok pour un match, t'as une grosse affiche, etc. Mais si t'es pas un pur et dur, bah en fait t'as une redite 15 jours après, t'as à nouveau le match. Et puis bah, si t'as eu un super match quand t'as vibré pour l'Irlande, bah 15 jours après c'est l'Italie qui se prenne une pilule. C'est pas la même chose.
D'accord.
On a eu la chance avec Lionel d'aller faire quelques matchs destination ou quelques matchs de tournée. On a vu les All Blacks et on a vu l'Irlande. Waouh, ça reste, quand c'est une grosse affiche, ça reste fabuleux. Ouais. Tu t'en souviens très bien, mais je serais pas retourné une semaine après, quoi, voir un autre match, quoi.
Je préfère
ce côté juste exceptionnel.
D'accord, là vous allez être concernés, messieurs. Qu'est-ce que vous auriez préféré, vous courir vite au foot ou être technique, sachant que vous avez été ni l'un ni l'autre?
Moi j'étais plutôt technique.
Moi
j'étais vite.
Moi j'étais technique.
Qu'est-ce qui prime, vous pensez, vous,
technique.
Bon, on fait avec ses qualités. Moi c'était à l'époque la vitesse, la rapidité. Ouais. Donc j'étais content déjà d'avoir ça. Je crois que si j'avais pu choisir, j'aurais choisi la technique aussi, bien sûr.
Ouais. Cette technique, vision du jeu, tu peux toujours t'adapter.
J'ai pas dit vision du jeu, j'ai dit technique.
Technique, si je vais faire des jonglages, bon, ça importe rien. Moi, technique, ça, c'est lié à vision du jeu. C'est-à-dire, tu sais faire des choses, voilà.
Tu fais des passes propres.
Et tu peux compenser justement ton manque de vitesse. On a plein de joueurs de très très haut niveau qui sont des fers à repasser, mais qui compensent parce qu'ils ont une technique en mouvement fabuleuse, ils anticipent les choses. Donc là, tu prends un vrai plaisir, parce que tu prends un plaisir de joueur, alors que le très rapide, t'es un athlète.
Mmh. Et je vous dis ça, évidemment, vous savez pourquoi, par rapport au but d'Aubameyang, notre Mayennais aussi, de mardi soir, c'était avec l'OM, bien sûr, où le gars, tu te dis, ben voilà, là, c'est une vraie qualité de vitesse pour aller déborder le gars. T'as pas besoin d'une grosse technique, t'as pas machin.
Ah si.
Mais Non, Lionel.
T'as pas besoin d'une grosse technique.
Couru, t'as poussé la balle et t'as tapé.
T'es pas le plus.
Ah oui, mais t'as vu comment il a tapé?
Oui, mais comme je dis, moi, il a pas le choix. Il peut faire aucun autre geste.
Très beau son geste.
Ce qui est une réalité, c'est que c'est pas la qualité première de Aubameyang, la technique.
Voilà.
Ça, c'est évident. Mais attention. Attention, c'est pas sa qualité première par rapport à l'ultra haut niveau, mais Junior, il est pas manchot pour jouer en Ligue 1 sans problème. Ça veut dire qu'il a déjà un bagage technique de base qui est bien au-dessus de la moyenne. Après, sa force, c'est évident que c'est la vitesse.
Oh là là, ouais.
Parce que pour répondre un petit peu à ta question, d'un point de vue amateur, tu disais technique ou rapidité, mais si t'as un des deux, c'est déjà pas mal. Le pire, c'est d'avoir ni l'un ni l'autre.
Il y en a beaucoup qui ont rien.
Il y en a beaucoup qui sont moyen technique, moyen vitesse. Quoi.
Tu peux me dire faible.
Si tu peux avoir l'un des deux pour pour faire la diff, c'est bien.
Ok, messieurs. Vous préférez-vous gagner la Coupe du Monde de biathlon sans neige ou la boycotter, vous?
Oh là là.
Je boycotte.
Oh, toi, t'as regardé l'équipe.
Je boycotte. Non, mais faut que ça.
Même si t'es un cador et tu sais que tu peux la gagner.
Il faut que ça ressemble à quelque chose. Non mais on a tous, et je pense que les athlètes les premiers, quand tu vois une retransmission, tu vois, il fait soleil, fait tout mal, est vert. Ouais, ils ont mis un peu là, ils ont étalé un peu au milieu. Et même eux, tu sens que les gars, ils y croient pas, quoi.
Par rapport à tout le discours.
C'est moche. Et tu sens qu'il y a pas l'envie, il y a pas la passion. Et t'adores quand tu vois, il y a les flocons, il fait froid, les mecs ils se défoncent. Bon bah là, quand c'est, t'as l'impression que les mecs sont en t-shirt.
Par contre, c'est exactement le même débat que est-ce que Jesse Owens va en 36 aux Jeux de Berlin? Est-ce que tu boycottes Moscou en 80? Est-ce que voilà, c'est
la même idée. Ah non, c'est politique ça.
Oui, mais c'est la même idée. Quand t'as une conviction, est-ce que tu dois y aller, pas y aller? Là, c'est pareil.
Oui, d'un point de vue politique. Idéologique.
Ouais, idéologique.
Non, mais quand c'est comme ça, faut annuler les épreuves ou à la limite, tu fais juste, tu vas, il y aura plus qu'en Norvège et puis en Finlande où
Mais quid des prochains JO d'hiver,
Il y aura que le patinage artistique.
Sur le lac gelé ou...
Vous voulez encore une ou deux? Non, mais vous n'êtes pas obligé.
Toujours.
Voilà. Alors vous préférez gagner le Vendée Globe, ou alors sauver un naufragé pendant le Vendée.
Moi je fais les deux.
Attends. attention, hein, parce que là, dans les deux cas, vous rentrez dans la légende de, du monde.
Eh ben forcément, ouais. tu sais, te poses pas ces questions-là, tu vas sauver, parce oui. que non, mais... c'est l'intérêt. Enfin, je veux dire, ouais. le marin, ouais, il est comme ouais, ça. Ouais.
C'est pour mais ça, tu vas pas. T'es pas dans la course, là, Fred. Ouais. On réfléchit à l'extérieur de la course. Toi, qu'est-ce que tu préfères, avoir ton nom accroché au palmarès ou ton nom accroché au palmarès des héros qu'on sauvait un autre?
Oh là là. Non, bah je dirais pas, le palmarès ouais. parce que sauver un autre, comme dit Fred, de toute façon, n'importe qui passe à côté d'un naufragé, ouais. il va le sauver. Ouais. Donc c'est presque le hasard. C'est le hasard. Quoi.
Et puis je pense que t'as même pas envie de ça. T'as pas envie qu'on se dise, ouais, c'est fabuleux, il a sauvé quelqu'un. Bah non, ouais. tu fais juste ce que tout citoyen doit faire.
N'importe quel marin aurait fait.
Ça, c'est comme dans les films, les policiers qui font des trucs extraordinaires et qui disent, non, c'est juste mon métier. Bah non, à un moment, c'est gentil qu'on nous remercie quand même.
Ce que tu poses là, c'est pas l'un ou l'autre. C'est que le gars, de toute façon, il a pas envie d'être retenu pour ça, parce que c'est normal.
Ah ouais.
Donc lui, il voudrait qu'il soit être retenu parce qu'il a été vainqueur, qu'il a le palmarès.
Ah, ouais.
Ah bah non, je pense que les mecs, quand tu leur demandes, ils vont
Est-ce qu'au fier, qui est allé le chercher lui? Parce que l'autre, il reste pas trop dans les choses. Mais si, parce que la dernière fois qu'il parle du Charlie Dalin, il disait il y avait eu hyper parce que l'autre avait été reclassé parce qu'il y avait.
Ouais, parce qu'ici, là, ouais, c'est ça. Donc, mais là, c'est pas une compensation de temps. Mais je pense, le palmarès, les autres, sinon, ils vont te dire que c'est normal. Donc, ils ont pas envie qu'on retienne leur nom pour ça, quoi.
D'accord, allez, une petite dernière.
Mais oui.
Vous avez l'air. Vous êtes chaud
ce matin.
Ça. Ouais, vous êtes bon.
Ouais. Vous êtes
une star, une année. Alors, on prend n'importe quel sport, hein, du hand, du foot, autre. Mais vraiment, la star qui explose tout.
La pépite.
Mais par contre, qui disparaît complètement de la circulation.
Et Dieu sait s'il y en a eu.
Ou un lambda plus pendant 10-15 ans, une carrière de sportif, quoi.
Je crois que tu as déjà posé cette question-là, un peu dans le même genre, et je crois qu'on était d'accord sur le deuxième, parce que si tu es sportif, bah tu veux faire du sport.
Je veux dire,
si vraiment tu coules au point qu'on veut plus de toi, c'est dur.
Ouais, et puis après, tu auras l'impression d'être un imposteur toute ta vie, quoi. Tu t'es dit, il y a eu un concours de circonstances, et c'est un peu le film coup de tête avec Devers, tu sais, le ballon lui rebondit dessus, ça fait but. Bon, moi, t'es une star, mais en fait, non, t'as envie d'être reconnu pour ce que tu sais faire au quotidien. Et puis,
tu parlais de Devers, c'est vrai qu'après Devers, tout s'accélère.
Ouais, mais bon, non, ouais, je pense que. Et puis, je comprends pour les petits jeunes, ça fait rêver, mais quand t'es un passionné de sport, t'as envie de durer, t'as envie de profiter de ça, et voilà, c'est accessoire le côté, on retient que moi.
Gourcuff, je me rappelle, le Gourcuff Bordeaux.
Ah ouais.
Oh, c'est extraordinaire, c'est magique, c'est tout ce que tu veux. Et après, il tombe dans l'oubli un peu, le pauvre. Ça doit être bizarre. Hein.
Il fait quelques matchs avec Lyon qui sont fabuleux quand même.
Ouais, quand même. Mais cette saison bordelaise, il est extraordinaire 100% du temps. Et ça doit être quelque chose.
Non, ce qui doit être encore plus dingue, c'est d'être une star toute ta carrière. Un Federer ou un Nadal, comment dans la tronche t'arrives pendant 15 ans?
15 ans.
T'es toujours là et ça devient naturel. Ouais. C'est fabuleux ce qu'on a connu pendant 2-3 ans. Et puis après, il rentre un peu dans le rang. Bah là, non, t'es au-dessus des autres.
Fabuleux. Toi.
Ouais, l'amour du sport. On prend notre Louan qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Ouais. Bah, il dit, ouais, c'est génial quand m'appelle en première. Mais lui, il prend du plaisir en deuxième toutes les semaines, quoi.
Oui. Oui, mais t'as pas les 800 personnes dans la tribune.
Non, mais
ça doit être quelque chose. Hein,
c'est clair. Mais il pleure pas pour ça, quoi. Il est content de faire du volley.
Non, il est très bien.
Après, on finira pas là-dessus. C'est toi qui décides, Benoît, bien sûr.
Je le rappelle.
Ceci étant, quand t'es dans un concours, tu vois, un concours de circonstances tu parlais de Bordeaux, j'ai souvenir de Philippe Farjon, avant-centre, qui avait fait une année fabuleuse. Il finit meilleur buteur et tout. Puis après, tu rentres dans le rang. Et ça doit être. Faut être prêt aussi psychologiquement là d'un seul coup l'impression que t'es là et puis tu recules jusqu'à tomber dans l'anonymat là effectivement
faut être costaud
quoi.
Philippe Farjon que je surnommais FIFA moi. Tout bêtement. Mais je crois que les stars du showbiz sont exposés exactement à la même chose. Tu sais, tu peux être la vedette de la chanson pendant un été et tu disparais complètement. Messieurs, la Ligue des Champions, forcément, hein, on l'a vécu cette semaine. Du beau, du grand, de la Ligue des Champions. Alors, un sujet facile, on en a parlé avec Pogacar il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que la Ligue des Champions ne cannibalise pas tout? Est-ce que vous allez regarder quand vous avez fait mardi, mercredi, Ligue des Champions? Champions, qui va regarder de la Ligue Europa le jeudi, qui va aller le dimanche regarder Saint-Germain le Fouillou B contre AUI et 4. C'est compliqué.
Sur quelle chaîne?
Ce spectacle qui est magnifique, je me demande s'il est pas, s'il ne tue pas le football tellement il est beau ce spectacle là.
Ouais, il y a le risque. Alors pour l'instant non, parce que c'est encore nouveau cette formule de Ligue des Champions.
Oui, mais c'était déjà fabuleux avant.
Mais j'ai peur effectivement qu'au bout d'un moment ça puisse lasser un peu. Ouais. Ça puisse lasser un peu.
Nous on se l'est dit mercredi soir. On se l'est dit, mais là. Comment on va regarder la Ligue Europa jeudi? On va pas la regarder tout simplement.
Ouais. Mais tu la regardais pas avant non plus. Donc,
je sais pas, peut-être dans les années 90 un peu. Et qui va aller au Stade Lavalois ce week-end regarder de la Ligue 2? À part les vrais tangos, c'est
mais c'était déjà ça. En fait, quand tu regardes la télé, tu regardes les affiches. Donc avant, les affiches, tu pouvais en avoir. On va revenir à l'ancien temps, Coupe de l'UEFA, Coupe des Coupes, tu pouvais avoir des affiches. Maintenant, les affiches, elles sont qu'en Ligue des Champions. Donc tu regardes la Ligue des Champions. Ouais. Mais de la même façon, Ligue des Champions, tu regardes les affiches de la Ligue des Champions. Tu vas pas regarder.
Tu vas pas regarder
Krasnodar contre. Contre Limassol. Donc c'est toujours la même chose. En fait, tu regardes les grosses affiches, les grosses équipes. Bon, là, il s'avère qu'avec cette nouvelle formule, ça revient un peu plus souvent.
Oh
donc,
là 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 là.
Voilà. Oh là, et effectivement, le niveau est tellement augmenté que c'est le quotidien devient un peu plus délicat. Après, je pense que c'est pas incompatible avec aller voir le Stade Lavalois.
Ouais,
tu sais que c'est un autre niveau, mais tu sais aussi que voilà, c'est une autre ambiance. C'est aussi des très très bons joueurs parce que tu t'aperçois que voilà, jouer en Ligue 2, c'est pas la portée de tout le monde et que le gars physiquement, il avance, techniquement, il sait faire des choses. Donc voilà.
Et il y a un paramètre évidemment fondamental, c'est le cœur, c'est-à-dire je supporte mon équipe. Et là, au-delà de la technique, n'importe quelle phase de jeu amène de l'adrénaline quand on est accroché à un club.
Et c'est exactement ça ce que je voulais entendre. C'est pour ça qu'on ira voir le Stade Lavalois encore.
Bien sûr.
Tant pis si le spectacle n'est pas toujours extraordinaire, il faut être complètement honnête quand même.
Mais il y a l'histoire qui va avec.
Il y a l'histoire, il y a le maillot qu'on porte, il y a les couleurs qu'on porte, il y a le département qu'on porte. Et ça, c'est le principal. Et ma mère a toujours dit qu'elle préférait voir des matchs bidon quand j'étais en pupille qu'aller voir l'équipe de France. Alors, on joue au jeu des cannibales, messieurs. Du coup, je vous donne un indice et vous me donnez le cannibale qui va tout de suite avec. D'accord ?
Ok.
Donc, je vous donne foot. Alors, les indices, c'est foot Allemagne.
Foot Allemagne, cannibale ?
C'est une équipe.
Une équipe ?
Ouais, c'est une équipe.
Le Bayern Munich.
Bayern Munich, c'est presque gênant pour la Bundesliga, quoi.
Il y a eux, les autres.
T'as 50 ans, depuis 50 ans.
Il y a eu des
40 titres, peut-être.
Il y a eu Dortmund.
Par-ci, par-là. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est incroyable que ce club d'une très grande ville, mais ce qui n'est pas la capitale, et cette aventure. Je ne sais pas si on pourrait comparer un peu à Marseille. C'est comme si Marseille avait un palmarès, mais depuis 30 ans.
C'est Munich. C'est Munich, évidemment. Le WRC, messieurs, la cannibale.
Ouais. Alors attention,
ouais. Attention,
il y a Augier qui peut égaliser.
On est bientôt à 9-9.
Cette semaine,
Qui te vient en premier?
L'homme, évidemment.
L'homme.
Oui, parce que ça a été le premier. C'est vrai que c'est dur pour Augier quand même.
Ouais, c'est dur.
Et puis c'est surtout, ça a perdu de sa superbe. Qui suit le rallye maintenant?
Voilà.
Parce que Augier peut être champion du monde alors qu'il fait pas toute la saison.
Ouais, c'est incroyable ça.
Mais c'est parce qu'il y a tellement plus, il y a plus d'autres pilotes non plus, donc
ouais,
en fait, je pense.
Alors qu'à l'époque de Loeb.
Il y avait du monde.
On suivait, il y avait tous les Finlandais. C'était passionnant. Et Loeb, voilà, tu dis d'où les RC, tu dis Loeb évidemment. Et c'est dur pour Ogier, bien entendu. Bien sûr, facile, c'est pour toi, mon Lionel, c'est du judo.
Riner pour l'instant, ouais.
Mais tu joues toutes les grosses années Riner. Moi je m'inscris, je commence même pas le judo. Je suis un enfant, je commence pas le judo. Je me dis, non, ça sert à rien, faudra tomber contre ce monstre.
Mais c'est ça qui doit être génial. Le faire tomber?
Personne.
Tu te rapproches du moment où il va tomber.
Mais bien sûr, quand il va avoir une jambe de bois ou quand il va avoir.
Quand il va oublier de faire le régime, quoi.
Mais s'il est au top de sa forme, c'est très bien que le mec, personne va le bouffer. Et ton seul argument, ce sera l'âge ou la blessure.
Voilà. Est-ce qu'il va s'arrêter avant ça? C'est ça. Est-ce qu'il va se dire je reste
J'ai peur qu'il fasse une connerie en tentant 2028.
Voilà.
Ouais. Mais si, on avait déjà la trouille avec 2024.
Alors, ouais, et mais là, honnêtement, alors d'un autre côté, je pense que lui, il y a réfléchi, parce que faut pas croire, hein, ces sportifs-là, ils sont ultra fiers aussi. Je pense qu'il a l'argument que tu viens d'énoncer, ça sera l'âge. Ouais. Ça sera normal, arrivé à mon âge, voilà, et puis il va adouber celui qui le fera tomber, etc. Mais je me demande franchement s'il n'aurait pas mieux fait de s'arrêter sur ces JO à Paris avec double médaille d'or.
On lui a dit la même chose après Tokyo. Et le gars fait.
Ouais, mais après Tokyo, il savait aussi qu'il allait arriver en France. Donc c'était le truc
ça,
ultime.
On savait qu'il allait le faire.
Et je suis pas persuadé que ça rajoute quelque chose à son aura et à son histoire.
Peut-être. Vous avez été excellent, comme de coutume, hein, j'ai envie de dire. Messieurs, on est dans les légendes. Que faut-il alors pour devenir un...
Ah, t'as plus d'autres cannibales ?
Ah, si, si tu
veux. Je commençais à être bien, là.
D'accord, donc en natation, là. En natation.
Ah bah, Phelps.
Oui.
C'était Phelps.
Bah, ouais, mais il y a peut-être un nouveau cannibale, là.
Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau cannibale ? Ouais,
oh, enfin, il a des dents de lait, hein, pour l'instant, le nouveau cannibale. Hein,
moi, tu me dis natation en ce moment, c'est fini. Je dis plus Phelps, je dis marchand.
Non, mais non,
attends, il a encore des choses à prouver.
Paul Marès, voilà, c'est un nouveau-né, hein, marchand.
Justement, c'est un nouveau-né. Le mec, il a déjà des médailles, mais à te remplir un truc.
Ouais, mais c'est encore une fois l'énorme champion. C'est la durée. Un Riner, ouais. Ça dure. Ouais. Un Federer, ça a duré. Marchand, c'est ultra fort. Bien évidemment. Et puis, on n'a jamais eu un champion comme ça. Donc, c'est fabuleux. Après, il faut aussi, dans la tronche, être capable de durer. Et peut-être que le gars, il aura envie de faire autre chose, hein, tout ouais. simplement. Bah,
pour
parce que la natation. Ouais, mais la natation, c'est hyper ingrat aussi comme sport. Pas, hein, donc, faut
et Aspitz, c'est loin en derrière ou c'est pas mal.
Légende. Mais c'est parce que ça a été le premier, voilà. Avec les 7 médailles, quoi. Mais qui a été dépassé.
Spitz, il fait une Olympiade, du coup. C'est sur son Olympiade, c'est extraordinaire.
Ouais, mais
Michael Phelps, lui, c'est sur plusieurs
Olympiades. Ah, bah, bien sûr, ouais. Et puis, Phelps, il allait battre le record de Spitz. Donc, faut. Voilà, ça se.
Ouais.
Évidemment, ça c'est.
Ça te classe un.
Et est-ce que le cannibalisme, c'est pas donc un gros souci de ce sport-là ? Parce que je te dis, moi, tu regardes la Bundesliga, tu t'ennuies. Tu regardes le championnat de France, tu t'ennuies. Tu regardes le judo à un moment, forcément, tu savais où ça allait. Tu regardais la WRC, tu savais où ça allait.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on est hyper heureux de voir son champion gagner ? Ou est-ce qu'on se lasse pas, tout simplement, quoi ?
Faut un moment ou un autre, faut qu'il y ait effectivement de la concurrence.
Faut qu'il y ait la concurrence. Faut qu'on ait pas le piton, faut qu'on ait quelque chose.
Parce que les gens, même si t'es un type super sympa et tout, les gens ils vont être limite contents le jour où tu perds. Parce qu'ils vont devoir réagir justement.
Et toi, le dingue de Federer, t'as quand même eu de la chance d'avoir Nadal en face. Et
qu'il l'a poussé dans ses retranchements.
Pour pouvoir vibrer par moment. Parce que si tu ne vibres jamais, si tu es sûr que tu vas gagner.
La seule chose, c'est que l'autre, il aurait eu 35 victoires en Grand Chelem, ça aurait été fabuleux. Ouais. Donc c'est ça qui a été un peu frustrant. Mais effectivement, l'histoire est encore plus belle quand tu as de la concurrence.
Bah évidemment.
Parce qu'autrement, tu as l'impression, c'était un peu le souci de l'homme à la fin. C'est que tu as un peu l'impression, il suffit de monter dans la bagnole et tu gagnes quoi.
Ouais. Il même changer de bagnole.
Ouais, c'est ça, il roulait quand même avec le coude à la portière, il mettait même plus de combats. Bon.
Toi qui es une légende, Lionel, je te laisse.
Enfin, le cannibale, faudrait quand même tu nous fasses la question sur d'où vient ce terme et puis qui c'est la référence.
Oui,
quoi.
On a déjà pas mal parlé.
Oui, mais moi j'avais envie de rajouter que le cannibalisme, tu l'as dans les sports individuels. Est-ce que tu pourrais me trouver un équivalent à un sport co?
Parlons-en.
Un joueur, pas un club, un joueur. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on peut qualifier de cannibales dans les sports co? Est-ce que, je sais pas, Mbappé, c'est un cannibale parce que partout où il passe, il...
Non, partout où il passe, il gagne pas. Donc, non. Mais alors, si t'en veux un, par exemple, tu pourrais dire Deschamps. Parce que Deschamps, partout où il est passé, il a gagné.
C'est pas faux.
Ouais.
Partout où il est passé, il a gagné.
Mais tu veux dire en tant que joueur.
Joueur et entraîneur.
Oui, et entraîneur, mais surtout.
Partout où il passe, il gagne. T'aimes ou t'aimes pas, mais. Il a gagné partout.
Excellente transition, comme on dit dans le monde du journalisme, mon Fred, pour devenir une légende, parce que Deschamps est une légende, justement. Quand vous allez citer un joueur de l'équipe de France des années 90-2000, est-ce que c'est Deschamps qui sort tout de suite ?
Non.
Est-ce que quand vous allez citer un joueur de l'OM, des grandes années de l'OM, c'est Deschamps qui va sortir tout de suite ? Est-ce que
Non, t'as raison, il va jamais sortir tout de suite, mais il va sortir.
Ouais,
c'est
systématiquement,
ça.
Il va sortir.
C'est pas tout de suite. Mais sera toujours sur le top 3.
Dans le petit monde, enfin le grand monde quand même, des footballeurs, les gars, il va sortir. Parce que parler à n'importe qui regarde la Ligue des Champions en ce moment, ils vont sortir les superstars, ils vont pas te travailler le Pedri, le machin, les joueurs du milieu.
Ouais, mais mais les gens maintenant, ils vont pas te sortir non plus Platini, alors que Platini, ça a été, il a gagné la Ligue des, enfin l'équivalent de la Coupe des Champions, le premier.
Ah ben moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve Fred que déjà Platini c'était la superstar à l'époque, normal, il le méritait. Maintenant un Deschamps comme tu dis, le mec a tout raflé, tout mangé, tout bu, tout ce que tu veux, ben c'est pas lui que tu cites en premier dans l'équipe de 98 évidemment.
Ouais bien sûr. Alors qu'il a été capitaine partout.
Ouais.
Il a été capitaine partout. Est-ce que messieurs, donc par rapport à cela, vous pensez que Vitinha peut devenir, on va dire qu'il reste sur les mêmes standards, est-ce qu'il peut devenir une star du PSG quand on citera les années 2020-2030, est-ce qu'on dira Vitinha tout de suite?
Non, ce sera comme Deschamps.
J'ai bien aimé la sortie du coach qui a dit on avait un ballon d'or sur le terrain et peut-être le prochain.
Ah ouais, j'ai pas entendu.
Parce que là c'est un vrai spécialiste. Donc il sait reconnaître le vrai joueur, mais Vitinha, ça fera à Paris, ça fera comme Iniesta, etc. à Barcelone. C'est-à-dire qu'on en parlera, mais on nommera d'abord Messi.
Oui.
Donc à Paris, on nommera d'autres joueurs avant Vitinha. C'est le lot de ces joueurs collectifs.
Donc
ils vont pas ressortir en premier.
Donc toi, tu penses que, alors je te dis, je répète, s'il reste sur les mêmes standards là pendant 10 ans au PSG, est-ce qu'il s'installera en tant que légende du PSG?
Du PSG, oui, mais c'est pas lui que le commun des mortels te citera pas en premier.
Bah si il rafle un ballon d'or, on en reparlera.
Mais il aura pas de ballon d'or.
Ah, c'est ça le problème.
Fort soit-il, parce que le mec est fabuleux.
Dans la même veine, est-ce que un Neymar, vous penserez qu'il restera légende?
Ça restera un grand nom.
Ah oui,
parce que c'est un artiste, il a fait rêver des supporters.
Ah, j'étais persuadé que vous alliez me dire pas.
Non, mais on aime ou on n'aime pas, c'est autre chose, ça. Mais c'est un vrai grand nom, ça. Ah oui, Neymar, vrai grand nom.
Tu parles du Matra. La dernière fois, on avait Denis Anco. Tu parles du Matra Racing. Toi, tu t'en souviens, tu diras toujours Francescoli.
Oui.
Francescoli, tu me dis, il a gagné quoi, Francescoli? Mais rien. Mais par contre, Francescoli, ça reste parce que le joueur était fabuleux avec le ballon. Il t'a fait rêver. T'as des joueurs comme ça. Alors que le palmarès va pas forcément de pair, mais parce que le gars t'a fait rêver, quoi.
Ah, il a fait rêver. Il a fait rêver, ce mec, avec Pierre Littbarski.
Ouais. Mais moi, c'était mon joueur préféré allemand, Littbarski, c'était fabuleux, quoi.
Ah, Littbarski. Est-ce que un Nuno Mendes va rester dans la légende?
Qu'est-ce qu'on l'aime. Qu'est-ce qu'on l'aime.
Nuno Mendes, il restera dans la légende parce qu'il fait évoluer le poste d'arrière-gauche.
Alors, on va mettre l'autre de l'autre côté dans le même sac. Est-ce qu'un Hakimi va rester dans la légende? Bon, c'est le même poste, c'est le même joueur, c'est le même machin. Est-ce que ces types-là, vous pensez qu'ils vont rester? Parce qu'il y en a des latéraux qui sont restés dans les légendes.
Ouais, je pense qu'ils peuvent rester parce qu'on va voir comment continue et évolue le Paris. Mais ce qui est très marquant à Paris, c'est que c'est une équipe qui fait souvent la différence avec ses deux arrières latéraux et c'est quand même super rare. Donc c'est une marque de fabrique. Et je pense que les deux ont fait évoluer le poste arrière latéral. On sait ce que c'est, on a joué au foot. Souvent arrière latéral, tu mets ton gars, tu sais pas trop quoi en foutre. Bon, on le met le long de la ligne, celui-là, il est dur au mal, il va courir, mais voilà. C'est pas le poste qui fait rêver. Et là, ces deux joueurs-là, ils peuvent te faire rêver un jeune en se dire, je veux être arrière latéral. Okay. Petit clin d'œil à Julien Tagnou.
J'ai tout compris à ce que vous me disiez et on va finir, messieurs. Lionel, tu nous quittes peut-être tout de suite. Tu ne feras pas le dernier sujet, mais tu as ton repas de famille. C'est important.
C'est important. très important.
C'est un peu de sport aussi.
Tu as été excellent. Je tiens à te le dire.
Je vous aime tous.
C'est mon frère qui va répondre. Du coup, Domenech a dit sur les différentes émissions qui passent, quand il a vu après le match à Marseille, par exemple, où le gardien était fabuleux et où devant
Aubameyang
a été fabuleux, il te dit une équipe de foot c'est un gardien, un neuf. Est-ce que ça te suffit toi dans ton équipe ou il manque quelque chose?
Alors, il manque quelque chose, mais force est de constater que ces dernières années, si t'as pas un gros gardien et un super avançant, tu gagnes pas les compétitions prestigieuses.
Je sais pas,
On a eu l'exemple.
On a eu l'exemple
Madrid quand Benzema a le ballon d'or. Je pense qu'ils auraient pu donner le ballon d'or à Courtois. Ils avaient les deux qui étaient fabuleux dans les deux surfaces. L'an dernier, ouais. Paris, Dembélé est fabuleux. Et par contre, Donnarumma, il fait pencher la balance du bon côté. Donc tu as besoin quand même d'avoir deux acteurs dingue. Décisifs.
C'est dingue ce soir parce que tu vois, je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises ça.
Non, mais la réalité, c'est ça. Moi, c'est les joueurs qui me font rêver. C'est le milieu de terrain parce que je pense que voilà, Vitinha c'est fabuleux, le milieu de terrain du Paris c'est fabuleux, mais il n'empêche, tu peux avoir un milieu de terrain fabuleux si t'as un gardien. Ce qui se passe pour Paris actuellement, un gardien qui est loin d'être décisif, tu te dis que ça va être très très compliqué de gagner la compétition. Et de la même façon, si t'as pas le gars qui va te faire comme a pu faire Aubameyang mardi dernier en 4 minutes, deux actions fabuleuses. Peut-être que s'il devait les refaire, il tirerait dans les tribunes et tout. Mais là, c'est rentré et le gars était décisif. Et si tu ne l'as pas, tu ne gagnes pas le match. Donc,
Alors, tu avais ton fameux Maradona à l'époque qui, lui, allait carrément chercher la balle tout seul au milieu pour aller se construire son action. Là, les mecs, ils ont quand même besoin de ce milieu extraordinaire
bien
de
sûr,
Paris.
Ouais.
Je vais te dire, sans ça. Et Marseille, c'est pareil. Hein. Ils ont plutôt très bien joué aussi les latéraux et les milieux. Je trouve que c'est hyper réducteur de la part d'un sélectionneur d'équipe de France.
Mais c'est évident. Alors, le meilleur exemple, on a cité Madrid. Je t'ai dit Courtois, Benzema. Madrid s'est effondré quand ils ont perdu Toni Kroos. Donc, l'équilibre, il tenait sur le milieu de terrain.
Ce que tu as toujours défendu.
Voilà. Donc, pour moi, le meilleur joueur, il est là. Mais il n'empêche que ce meilleur joueur-là, aussi fort soit-il, lui, il est sur tout l'équilibre. Mais si t'es pas un gars décisif devant et un décisif derrière, tu peux avoir le meilleur milieu de terrain du monde. T'es pas à la merci d'une connerie devant ou derrière. Quoi.
Ouais, mais t'as toutes les années 2008, 10, 12 où l'Espagne marche sur l'eau et ils jouent avec des faux neufs comme ils appellent ça là. Ils ont pas le vrai neuf qui va tuer dans les buts. Quoi.
Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi parce qu'ils sont vraiment ultra dominants. Mais ces équipes, c'est encore différent les sélections. Après, l'autre exemple, c'est Barcelone qui est super fort au milieu, mais ils ont quand même le gars décisif devant. Hein. Ils ont Messi.
Il y a tout le monde, ouais. C'est sûr. Eh oui, voilà. Donc ça a été des phrases de la semaine. Vous prenez pas. C'est comme vous voulez, messieurs dames. Vous faites votre petit avis, évidemment, de votre côté.
Mais moi, je pense que la balance penche plus sur le gardien. Il faut vraiment que tu aies un gardien décisif.
Ouais.
Tu vois, le football me fait penser. Tout à l'heure, Lionel citait Marquet pour le futsal.
Ouais.
On le voit au handball où le gardien, c'est la moitié de l'équipe.
Ouais.
Et au foot, tu commences à t'apercevoir que si t'as pas un portier fabuleux, c'est très très compliqué d'aller au bout de grosses compétitions. Quoi.
Je peux te dire qu'en tant que supporter de Brest, je le vis pleinement cette année. On avait Marco Bizot les années précédentes, un monstre. Alors on le savait qu'il était fort, mais là on s'en rend compte d'autant plus quand on voit que en fait le match très souvent tenait grâce à ses exploits. Ça suffit pas, parce qu'on entend souvent bon match du gardien, mais ça suffit pas d'être bon à un moment. Il faut être très bon pour sortir les vrais arrêts.
Faut être fabuleux. On citait Paris, tu vois Chevalier, il est un peu transparent. Voilà. Quoi. T'as l'impression qu'il n'inspire aucune inquiétude chez l'adversaire.
Ouais.
Alors que Donnarumma, pendant 6 mois l'an dernier, tu sentais que les gars ils tremblaient un peu à moitié en face, comme peut le faire Courtois, où tu te dis le gars, je vais jamais réussir à lui mettre un but. Ou ce qu'arrivait à très bien faire le gardien allemand du Bayern Munich, Manuel Neuer, à une époque où tu te disais, mais je vais jamais lui mettre un but. Quoi. Jamais, je sais pas.
Jamais.
Voilà.
Moi j'en profite, Damien, si tu nous écoutes. Notre Damien, de facteur de son métier, qui joue avec nous le dimanche matin, c'est le type de gardien, je te jure, on arrive devant. On est 3, on est 3 contre 0, puisque le gardien, normalement, il compte pas. Quand on dit un 3 contre 1, on parle pas du gardien. On est 3 contre 0. On pourrait direct la foutre en touche ou quelque part. On sait qu'on va se louper. Le type est extraordinaire.
Ah,
c'est fou, c'est fou. Et je te dis, quand tu rentres dans la tête des attaquants.
Ah oui, c'est ça. Je pense que les très grands gardiens, c'est déjà la moitié, c'est psychologique. Quoi.
Et on pense forcément à ce qu'il y a là au hand aussi. Et à te dire que les gars, quand tu marches sur l'eau,
Au hand, c'est encore plus proche. C'est pour ça aussi que souvent les gardiens au hand, à une époque, on avait notre super gardien français, Titi au meilleur, qui était en plus ultra démonstratif. Mais c'était aussi pour montrer au mec, viens mon garçon, viens. Et c'est vrai que dès que tu rentres dans la tête du joueur d'en face, d'un seul coup, c'est moins limpide pour le joueur, il fait des conneries, et toi tu deviens encore plus fort.
Ah ouais, hyper important bien sûr de là dire que ça ne dépend que ça. ça. Bien sûr, on ne sera pas aussi réducteur, mais ça fait une grande partie. Messieurs, dames, est-ce qu'on a passé un bon moment?
Très sympa.
Tiens, ouais. Donc. Ah, c'est super. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec de l'invité. On espère, en tout cas. On ne sera pas loin de la fin de l'année. Hein.
Ouais, ça y ressemble fortement.
Des,
ouais.
Des vœux, des remises de prix, des qui a été bon, pas bon, et ainsi de suite. D'ici là, on repart dans le froid ou dans la pluie pour la semaine prochaine?
Ouais, un peu des deux. Là, c'est pas les meilleures périodes. Hein.
Allez, c'est là qu'on voit les courageux. C'est là qu'on voit le long de la Mayenne. Si vous y êtes, on retrouvera aussi notre kayakiste hein, qui doit continuer à s'entraîner. La pauvre, ça doit être plus dur en ce moment. Soyez bons tous et on se dit à dans 15 jours. Ciao tout le monde.
Allez, bon dimanche.